Son père est médecin de campagne et Cass s'est juré de ne pas l'imiter. Il est exténué en permanence, enchaîne nuits et week-ends de garde, rate les événements familiaux, est davantage disponible pour les malades que pour sa famille. Elle a choisi des études moins longues, bac plus 3 et diplôme de technicienne médicale. Professionnelle de santé, elle ne risque pas le chômage. Son discours, sincère, bien rodé, cool, fluide, persuasif, empathique, lorsqu'elle décrète « Votre vie va être transformée ». Les gens hésitent, atermoi. C'est quand même cher, tout n'est pas remboursé, ils vont avoir l'air vieux, c'est compliqué, fragile, galère, on verra dans quelques années. Sa réponse fuse, automatique. Ses lèvres prononcent les mots avant qu'ils aient atteint son cerveau. Être appareillé maintenant va diminuer, sinon stopper votre baisse d'audition. Ce n'est pas du confort, mais une nécessité. Moins entendre accélère le déclin cognitif, influe sur la mémoire et sur l'acuité mentale. Ils sont ébranlés. Vraiment ? Demande un banquier hésitant. Elle a réponse à tout. Ses arguments font mouche. L'homme convaincu signe le contrat. Votre oreillette va devenir une complice, explique-t-elle plus tard à une avocate. Avec le Bluetooth, vous recevrez même vos appels et écouterez votre musique. Vous serez une humaine supraconnectée. On chausse des lunettes pour mieux voir la vie, on porte des prothèses pour entendre la musique du monde. L'avocate signe aussi. Le propriétaire de la franchise se félicite d'avoir engagé Cass, qu'il surnomme « la perle ». À l'heure de la pause déjeuner, elle ouvre le sachet de la pharmacie et s'isole dans les toilettes. Elle en émerge 5 minutes plus tard, bouleversée. On n'annonce pas ce genre de nouvelles par téléphone. Elle préfère attendre ce soir. Le premier patient de l'après-midi est un enseignant à la retraite.
« Ma femme a insisté pour que je vienne », confie-t-il à Cass. « J'entends moins bien, mais je ne suis pas sourd. Elle prétend qu'elle doit répéter ce qu'elle dit. Forcément, elle chuchote. » Et elle baisse exprès de la télévision. Mes élèves aussi me faisaient bisquer, le petite canaille.
Elle sourit, réconfortante, va dans son sens, propose un audiogramme. L'épouse du prof a été exfiltrée vers la salle d'attente. Ce qui se passe dans la salle insonorisée ne concerne que le patient et la technicienne. Le prof coiffe le casque, lève un doigt ou hoche la tête quand il perçoit un son. La courbe finale est significative. Sa femme a raison.
Avant, j'étais proche de mes petits-enfants, avoue-t-il. Maintenant, j'ai l'impression d'être sous l'eau quand ils me parlent.
Vous allez retrouver votre complicité, promet Cass.
Merci,
répond le prof.
Je vais prendre un moulage de votre conduit auditif. Nous nous reverrons la semaine prochaine,
dit Cass en notant le rendez-vous dans l'ordinateur.
Mais je...
insiste l'autre.
Même jour, même heure?
Le prof hausse le ton.
« Vous ne m'écoutez pas? Je viens de vous dire que nous partons demain en vacances pour 15 jours. Vous aussi, vous devriez consulter. »
Cass sourit, gênée, prétend qu'elle est allée à la piscine ce matin et qu'elle a de l'eau dans l'oreille. Hier, en pareille situation, elle s'est inventée une otite. Avant-hier, un bouchon de cérumen.
« Les cordonniers mal chaussés, »
poursuit le prof. Cass le rend à sa femme comme on rend un enfant à sa mère à la sortie de la crèche.
Tout s'est bien passé? Il a coopéré?
Tu ne pourras plus téléphoner à ton amant. Je veux avoir des oreilles bioniques,
précise le prof. Il se tourne vers Cass.
Merci de votre aide, docteur.
Je ne suis pas médecin.
Vous êtes plus sympathique que l'ORL. Et arrêtez la piscine, sinon...
Après leur départ, Cass se connecte via son téléphone à un test auditif en ligne. Pas question d'utiliser le matos du magasin, elle ne veut laisser aucune trace. Ce dépistage grossier confirmera ou non ses craintes. Elle commence par différentes tonalités, puis répète les mots qu'elle entend. Le couperet tombe quelques minutes plus tard.
« Cass, ton patient suivant est là !»
prévient la secrétaire. Cass l'adore, ce patient. C'est Henri, un gamin renfermé et triste. Transformé depuis qu'il est appareillé. Il est devenu un petit garçon pétillant et joyeux. Elle a l'impression d'avoir appuyé sur un bouton magique.
« Bonjour, Henri. »
Hypersensible. Il s'inquiète.
« T'es triste, madame. »
« Henri, voyons. »
Le Maurice gêne sa mère.
« Je suis fatiguée. »
ment Cass.
Elle tient bon tout l'après-midi, jusqu'à l'heure où, enfin, elle descend le rideau du magasin. Cass prend le tramway, s'isole en coiffant son casque. Elle écoute une chanson de Jérôme Attal. « Je me sens tout pâle, je suis tout blême, comme un beluga dans la Seine. » Elle se sent beluga en ce moment. Elle fait répéter, elle est larguée au restaurant si la conversation est animée. Son quotidien est rempli de phrases interrompues qu'elle reconstitue en lisant sur les lèvres ou en faisant travailler son imagination. Hier soir, ça ne s'est pas très bien passé chez les parents de Vivien. Son exquise, quasi belle-mère, lui a posé une question. Elle n'a pas entendu parce qu'ils étaient 15 à table. Dans le doute, elle a souri et approuvé de la tête. Sa quasi belle-mère s'est raidie. Vivien, d'astreinte pour la nuit, a été bippé en urgence quelques minutes plus tard. Il a dormi à l'hôpital. Elle n'a aucune nouvelle depuis. La famille l'a traité bizarrement le reste de la soirée. Elle est partie tôt. Elle s'arrête chez le caviste acheter du champagne. Manque de se faire écraser par un crétin qui déboule sur un vélo en libre-service.
« T'es conne ou quoi ?»
gueule-t-il furieux. Elle monte l'escalier, impatiente. Vivien, assis dans le salon, a sa mine des mauvais jours. « Bonsoir, mon amour, » dit-elle en posant la bouteille sur le plan de travail. « J'ai quelque chose de très important à te dire. Tu te fous de ma gueule ? Pardon ?» Elle s'assied près de lui, avide de tendresse, mais il s'écarte. « Ma mère a été très choquée hier. On l'a tous été. Je n'ai pas compris ce qu'elle me disait avec tout ce bruit. Oublie ta mère, écoute-moi, j'ai une grande nouvelle. Ne fais pas l'innocente. » Cass fronce les sourcils, largué. Elle avait bien saisi qu'elle avait gaffé, mais ça ne semblait pas crucial. Ma réponse à quoi ? Il y a sûrement un quiproquo. Arrête, je n'aurai jamais ta part. Tu me fais marcher. Tu me fais vomir. L'homme qui partage sa vie depuis 3 ans a disparu, remplacé par cet individu hargneux et hostile. Ce n'est pas possible, pas aujourd'hui. Il faut qu'elle lui annonce, qu'il sache. Ils vont célébrer. Elle se contentera de tremper ses lèvres dans le champagne. « Je suis allée à la pharmacie à midi, » commence-t-elle. « On s'est tout dit, » décrète Vivien en se levant. Elle remarque alors les 2 sacs au pied du canapé, les objets qui manquent sur les étagères, les livres en moins dans la bibliothèque. Elle s'affole. « Attends, laisse-moi éclaircir ce malentendu. Notre vie va changer. » « Nos vies vont changer, oui. Et séparément, c'est fini. » Elle est si estomaquée qu'elle ne trouve plus ses mots. C'était simple. Il y en avait 4. « Tu vas être papa. » La porte d'entrée claque derrière lui. Le bruit de ses pas décroît dans l'escalier. Elle vit un cauchemar. Elle appelle la mère de Vivien. Son exquise quasi-belle-mère. Un amour de femme, une crème. Répond sèchement.
« Efface ce numéro !»
La communication est coupée. Paniquée, Cass lui envoie un texto. « C'est une horrible méprise. Laisse-moi m'expliquer. » L'amour de femme ne réagit pas. Cass tente de joindre Vivien dans son service. On fait barrage. Alors elle s'effondre sur le canapé. Elle pense au prof qui va renouer avec ses petits-enfants. Elle revoit le sourire d'Henri la première fois qu'il a entendu l'ours Balou chanter « Il en faut peu pour être heureux ». Il s'est mis à danser, c'était bouleversant. Les larmes de Cass coulent en silence. Peut-être même qu'elle gémit. Mais elle ne s'entend pas. Le jour se lève. Elle arrive au magasin comme un zombie. Elle mélange les dossiers, se trompe dans ses mesures. Une dame âgée lui conseille « Rentrez chez vous, mon petit. Vous couvez... Vous m'avez fait répéter 3 fois. » Le soir, elle tente encore de joindre Vivien. Le dimanche, alors qu'elle tourne en rond dans l'appartement, une douleur soudaine la plie en deux. Une crampe insupportable. Elle saigne, se précipite aux urgences. C'est une fausse couche. Elle traverse l'épreuve seule, ne prévient personne, ni famille, ni amis, avale les antidouleurs avec un grand verre de whisky. Elle peut boire de l'alcool maintenant. Elle a perdu l'enfant. Plus rien ne la lie à Vivien. Dans les jours qui suivent, sa seule consolation en retrouvant le soir sa chambre solitaire est de hurler des points d'interrogation sur son ordinateur. Elle dresse une liste de questions pour trouver ce qui a pu faire partir son existence en vrille.